Voilà, j'aimerais précéder un peu le calendrier liturgique en prenant dès aujourd'hui le texte que nous aurons l'occasion peut-être de relire, ce qui est le texte que nous aurons l'occasion de relire, je pense, le dimanche des Rameaux, soit en lecture publique, soit en lecture chez soi. Et j'aimerais tout d'abord illustrer ce texte en faisant un lien avec un meeting politique. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un meeting politique. Vous savez, lorsqu'il y a un politicien qui vient dans une ville, mais c'est un événement, en tout cas, que je vous encourage à aller vivre, même si vous n'êtes pas en adhésion, hein, avec cette chose-là, parce que simplement, en fait, Voilà, donc du coup, alors j'en reviens à ce meeting politique. Donc du coup, lorsque vous allez dans un meeting politique, vous verrez une masse de gens venir. Le monde se bouscule, s'agglutine. Leur but est de venir le plus tôt possible pour être le plus près de la personne qui va pouvoir apporter son idéologie. L'ambiance dans la salle est particulièrement festive. Tout est préparé en avance pour qu'il y ait une véritable émulation au sein de la foule. Et puis, avant même que la personne rentre dans la salle, vous avez le team qui a été briefé pour faire un peu d'ambiance, agiter les drapeaux du parti politique, agiter les drapeaux de la France. Les jeunes du mouvement ont eux aussi été dressés pour mettre de l'ambiance, mettre de la vitalité. Et puis, tout d'un coup, le groupe est appelé à lancer le nom du candidat. Il est scandé de façon frénétique. GEFRA, président, GEFRA, président. Et alors tout d'un coup, toute la salle se met à répéter, sans même réfléchir à ce qu'il dit, ce nom qui est répété. Et soudain, il y a un tonnerre d'applaudissements qui débute à l'avant de la salle. Et puis, ce tonnerre d'applaudissements vient envahir l'ensemble de la salle. Et puis, tout d'un coup, les applaudissements redoublent. Et il y a quelqu'un qui arrive sur le bord de la scène. Et à partir du moment où on le voit, tout le monde est convaincu que la personne qui rentre sur cette scène est le futur président de la République. Plus personne n'en était, mais l'ombre d'un doute, même si pourtant il a des fois bien peu de chances de passer. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe le dimanche des Rameaux. L'ambiance est à son comble sur ce chemin qui relie Betphagé à Jérusalem. Il y a une foule immense qui est là. Je vais reprendre le texte de l'évangile de Marc au chapitre 11 qui nous rapporte cet événement. Marc au chapitre 11, à partir du verset 1. Alors qu'ils approchaient de Jérusalem, à la hauteur de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant: Allez dans le village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande: Pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin, et il le renverra très bientôt. Ils partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue, et le détachèrent. Quelques personnes qui se trouvaient là leur dirent: Hé, qu'est-ce qui vous prend là, à détacher cet ânon? Ils répondirent comme Jésus le leur avait ordonné, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus et posèrent leur manteau sur son dos. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup des gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. La foule, de la tête à la fin du cortège, criait: Hosanna! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur! Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père! Hosanna à Dieu, au plus haut des cieux! Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Ici, ça va être notre lecture. Ce passage nous offre une description de la venue de Jésus à Jérusalem, le dimanche des Rameaux. Et les quatre évangiles nous offrent la même description. Ils sont tous en harmonie pour nous dire qu'il y a une foule très nombreuse qui est là. Et tout semble clair pour ceux qui sont présents. Dans les jours qui viennent, Jésus va être proclamé roi. Et tout va dans ce sens. Nous sommes dans une période d'occupation romaine. Toute la foule attend le Messie libérateur qui doit venir pour briser l'arc et supprimer le joug de Rome, suivant la prophétie de Zacharie au chapitre 9. Et dans cette même prophétie de Zacharie chapitre 9, il nous a même dit que ce Messie qui va venir rentrer à Jérusalem sera assis sur un ânon. Par ce signe, Jésus montre à tous de façon claire qu'il assume pleinement son rôle de Messie, ce roi juste et humble qui est tant attendu. Et la foule perçoit très bien cette chose-là, elle le comprend très bien, parce qu'elle offre à Jésus une reconnaissance que l'on offre aux rois et aux empereurs de l'époque lorsqu'ils ont remporté une victoire et qu'ils sont accueillis dans une ville. On prend son manteau, on le jette devant le roi qui est en train de passer, on va couper des branches de palmiers, ce que l'on appelle des rameaux, et on va l'agiter le long du chemin pour venir célébrer ce roi glorieux qui est en train d'arriver de façon triomphante dans la ville qui doit l'accueillir. Tous ceux qui sont présents sur ce chemin peuvent aussi se souvenir ou même avoir entendu, pour ceux qui ne l'ont pas vu de leurs propres yeux, de la résurrection de Lazare qui avait eu lieu à Béthanie, parce que Béthanie est juste à côté de la ville de Bethphagée. Et tout le monde se rend compte qu'il y a quelqu'un d'une importance toute particulière qui est en train de passer sur ce chemin. Et quelques versets auparavant, un texte que l'on n'a pas lu, même Bartimée, cet aveugle qui était le long du chemin, a bien compris qu'il avait affaire à un roi. Il s'écrie, en regardant Jésus, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi, ce fils de David, il est en train d'annoncer la royauté, il est digne de recevoir la royauté de David. » Et suite à cette parole de Bartimée, le long de ce chemin, c'est l'ensemble des pèlerins qui se dirigent vers Jérusalem, qui reprennent le psaume 118. Le psaume 118, c'est ce que l'on appelle le chant des montées. Et c'est un chant qui était célébré par les pèlerins qui allaient à la Pâque, à Jérusalem, et c'était un chant porteur d'espérance qui célébrait l'attente du Messie roi. Et ils reprennent cette parole du psaume 118, « Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. » C'est très clair, ce Jésus qui est en train d'être célébré, c'est celui qui règnera dans peu de temps à la tête de ce royaume d'Israël, il siégera à Jérusalem. C'est une certitude dans la tête de toute cette foule. Et c'est non seulement cette foule qui est éloignée, qui a cette perception des choses, mais même dans le cercle restreint des apôtres, il y a une véritable émulation qui est là. Ces apôtres, ça fait 3 années qu'ils suivent Jésus, ils sont convaincus que dans les heures qui vont venir, ils vont enfin pouvoir, après 3 années avoir suivi leur maître, enfin être reconnus pour ce qu'ils sont. Et même Jacques et Jean sont allés quelques heures auparavant solliciter Jésus pour aller s'installer l'un à sa droite ou l'autre à sa gauche. On est vraiment dans une parole politique, vous savez, c'est ce qui se passe en ce moment, par exemple, vous savez, vous avez donc là 5 candidats plus potentiels, et puis encore quelques autres, voilà. Et il y a un véritable jeu de chaises musicales, où on voit des gens qui abandonnent certains, qui vont se rapprocher d'autres, enfin bref, il y a des véritables jeux politiques, parce que tout le monde a envie de tirer son épingle du jeu. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur des disciples. Quand Jacques et Jean viennent solliciter Jésus en lui disant « on a envie d'être assis à ta droite et à ta gauche », c'est qu'ils ont pleinement compris que ça y est, l'avènement messianique est en train d'arriver. Les apôtres comprennent ce qui est en train de... Enfin, pensent comprendre, en tout cas, ce qui est en train de se passer. Ils veulent la place de Premier ministre. Et enfin, ils s'imaginent que dans quelques heures, dans quelques jours, après avoir subi 3 années à accompagner ce potentiel messie, enfin, ils vont enfin être reconnus pour ce qu'ils sont. Ils vont eux aussi avoir droit à leur propre gloire. Bref, tout semble parfaitement réglé. Jésus sera reconnu comme le roi messianique. La foule, dès maintenant, commence à l'aduler. Les disciples seront tous ministres reconnus à tour de rôle. Maintenant, plus rien ne semble s'opposer à ce projet. Même la foule est de leur côté. Tous ceux qui sont présents attendent le Messie qui va enfin rentrer dans son règne. Pourtant, il semble qu'il y a quelque chose qui est totalement oublié dans le décor que je vous ai présenté. Ou plutôt quelqu'un. C'est Jésus. C'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression que tout est en harmonie. Et tout d'un coup, lorsqu'on se focalise un petit peu plus sur le texte, et Jésus dans tout ça, qu'est-ce que lui, il en pense? À prime abord, les signes qu'il est en train de montrer laisseraient entendre qu'effectivement, cette foule, ses disciples, ont tout à fait raison. Jésus semble de la partie. D'habitude, il a toujours été assez réticent à l'idée de recevoir l'adoration en public. Et là, il laisse tout le monde l'aduler, le célébrer. Et dans la façon dont, par exemple, il va accepter même de monter sur un ânon. En gros, il est en train de montrer devant tous qu'il accepte un signe, qui est un signe messianique. Mais pourtant, ce jour des rameaux, Jésus a-t-il bien dans sa tête, à l'esprit, les mêmes choses que ce que les disciples pensent? Et Jésus, en fait, quand on regarde bien, quand on scrute le texte, n'a pas l'air d'accorder la même signification à tout ce qui est vécu. Lui, il sait où le conduit ce chemin. Au cours des trois derniers chapitres, à trois reprises, Jésus, dans l'évangile de Marc, a fait part à ses disciples qu'il se dirigeait vers Jérusalem pour y mourir, pour subir l'humiliation, le rejet. Il avait cherché à les mettre au courant, mais eux, ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas été capables de comprendre ce que Jésus voulait leur dire. Les paroles, les phrases étaient bien là, mais ils n'ont pas voulu entendre. Ils n'ont pas voulu comprendre. Le sort que Jésus leur présentait ne pouvait pas correspondre avec les attentes qu'ils s'étaient fixées du royaume messianique. Non, dans leur tête, les choses ne devaient pas se passer comme ça. Ils s'étaient fixés dans leur tête la façon dont les événements devaient se dérouler et ils n'étaient pas capables de comprendre ce que Jésus voulait leur dire. Jésus, lui, sait pertinemment ce qui va se passer dans les prochains jours. Il sait que de se manifester de façon aussi publique le conduira inexorablement à la croix. Mais il était nécessaire qu'au moins une fois, toute la foule puisse enfin l'aduler pour ce qu'il était réellement et ce qu'il est réellement. Et c'est pour ça qu'il ne rejette pas les honneurs qui lui sont dus, c'est parce qu'effectivement, il les mérite. Mais tout en révélant sa royauté, Jésus vient apporter une révélation à contre-courant. Il reconnaît qu'effectivement, il va bien rentrer dans son règne, mais pas de la façon dont la foule était en train de projeter. Jusqu'à ce jour, Jésus avait toujours cherché à éviter la manifestation publique dans le territoire de Judée. L'affirmation de sa messianité à Jérusalem devait donc être, à partir de ce moment-là, un dernier appel qui était adressé à la foule pour pouvoir le reconnaître tel qu'il était. Et pourtant, lorsque cette foule l'adore, lorsque cette foule lui accorde des louanges, elle n'accorde pas des louanges à Jésus tel qu'il est, mais à la projection qu'ils sont en train de faire de lui. En fait, ils sont en train de faire de Jésus une forme d'idole. Jésus doit rentrer dans les critères que eux ont définis, mais pas tels que Jésus, lui, veut se présenter. Et même, je pense que certaines fois, même dans nos prières, vous savez, on a certaines fois dans nos prières des formulations ou des attentes, on va réellement presque rentrer dans une transe en disant « C'est trop cool, Jésus va répondre à la prière de la façon dont moi j'attends, parce que je vis quelque chose de grand, parce que j'attends quelque chose de grand. » Et on n'est pas capable d'accepter à un moment que Jésus ne soit pas dans l'attente que nous avons de nos prières. Et on n'accepte pas forcément que Jésus se présente et réponde à nos prières d'une façon toute différente, mais on va voir peut-être beaucoup plus forte et beaucoup plus glorieuse que ce que nous avons pu projeter. Ainsi, malgré toute cette foule, Jésus, même malgré le fait qu'il y a plein de monde, et toute cette louange qui est offerte du début à la fin du cortège, Jésus est profondément seul à cet instant. Cette solitude n'est que le commencement de toute cette semaine qu'il va vivre, de la semaine sainte, qui va trouver son apogée au jardin de Gethsémané, au moment où même lorsqu'il sera dans l'attente que ses disciples lui montrent un maximum de compassion, à ce moment-là, il sera le moment où il est le plus seul de toute son histoire. Il est épatant de voir que malgré tout le monde qu'il y a autour de Jésus, Jésus vit ces moments terriblement seul. Il n'y a personne qui est capable d'être en adéquation avec son cœur. Ce chemin pour Jésus est le chemin de son angoisse suprême. Ce temps des rameaux est le moment où le Christ entre seul dans la semaine ultime de son abaissement. Les hommes voulaient avoir un Messie puissant, digne de recevoir les plus belles couronnes humaines, mais le Messie qui est en train de se présenter à nos yeux est un Messie qui fait honte, un Messie qui, au lieu de recevoir les couronnes de gloire et d'honneur, va recevoir la couronne d'opprobre. Et ce Messie-là, les gens sont incapables de pouvoir le comprendre, de pouvoir le recevoir. Le roi que Jésus présente en ce jour n'a pas le même profil que les disciples projetaient. À la place du roi qui devait les délivrer du joug romain, le roi qui vient se présente comme un roi humble, doux de cœur, assis sur un ânon. Et dans ce texte de Zacharie, chapitre 9, il nous est dit qu'effectivement, il ne vient pas sur un cheval comme un guerrier. Vous savez, le cheval, c'est comme nos tanks aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous avez un dictateur qui arrive et qui montre la plus grande, toute la gloire, tout l'honneur qu'il a, vous savez, lorsque le président, chef des armées, arrive le 14 juillet, il arrive sur une jeep entouré d'une armée. Le but est de montrer devant toutes les nations que s'il veut, il peut écraser tous ceux qui sont autour de lui. Mais celui-ci qui vient agit de façon toute différente. Il ne vient pas pour dire aux Romains qu'il pourrait les écraser, alors qu'en fait, il le pourrait s'il voudrait. Mais il vient sur un âne, de façon douce et humble de cœur. Son attitude révèle que la façon dont cette foule projetait leur ambition sur lui n'était qu'une vision arrogante. Et que nous-mêmes, nous sommes bien souvent arrogants lorsque nous voulons projeter sur Jésus les pensées qui sont les pensées de notre cœur et que nous ne sommes pas capables de le laisser venir dans sa douceur et dans son humilité. Lorsque l'on n'accepte pas que Jésus vienne prendre notre attente, notre désir à contre-pied. En prenant ce chemin, Jésus affirme de la façon la plus claire qu'il est le Messie. Il l'affirme, toutes ces paroles que ces gens disent de lui sont véritables, mais pourtant ils ne comprennent pas le fond de leurs paroles. Il est en train de réaliser les prophéties qui ont été faites à son sujet, tout en montrant que la vraie nature de sa messianité est à l'inverse de ce qui était attendu par les foules. Ainsi, ce texte doit venir nous interroger si nous avons bien compris l'œuvre du Christ telle qu'il est venu la manifester. Et ce qui est déroutant dans tout cela, c'est que le peuple a accepté ce Messie tant qu'il l'avait mal compris. Et aussitôt que le malentendu va devenir apparent, dès que dans la semaine sainte, Jésus va se présenter dans sa douceur et dans sa faiblesse, aussitôt, de ce roi que l'on avait voulu couronner, mettre en avant, eh bien on va vouloir le rejeter, le crucifier, l'éliminer. Et dès que Jésus ne correspond plus à notre attente, eh bien prenons bien garde dans notre vie à ne pas vouloir l'éliminer. Vous savez, lorsque l'on a fait des projections en disant « Mais c'est simple, Jésus va venir, va me guérir, ça va se passer comme ça », ou bien que l'on a prié en disant « Oui, j'attends à tout prix quelque chose de la part de Dieu », et puis le Seigneur ne nous donne pas, et il va nous orienter sur un chemin différent que celui qu'on avait voulu, eh bien, hop, aussitôt que l'on n'a pas reçu notre réponse, eh bien, on va avoir tendance à claquer la porte et à dire « Si c'est comme ça, je m'en vais ». Et on va vouloir jouer la chaise de la politique, de la chaise vide. Et c'est pour ça que je crois d'ailleurs, et je veux vraiment louer ceux qui sont fidèles à travers les âges. Parce que c'est vrai que bien souvent on arrive, lorsqu'on se convertit, vous savez, on a certaines attentes de Jésus, et puis on marche sur ce chemin sur lequel le Seigneur nous appelle, et puis des fois on vit des déceptions dans notre cœur. Simplement parce que, non pas parce que Jésus nous déçoit, mais parce que nous sommes déçus de la projection que nous avions faite de Jésus, et on vient découvrir un Jésus qui se manifeste d'une façon tout autre que celle que l'on s'était présentée. Et je vous félicite lorsque nous avons accepté de rencontrer ce Jésus tel qu'il voulait se présenter, et non pas tel que nous l'avions attendu, mais tel qu'il se présente, tel qu'il est. Ce véritable roi, ce véritable Messie, doux et humble de cœur. Alors dans ce texte, on peut se questionner, mais alors où est-ce qu'elle se trouve cette espérance ? Si la seule espérance que Jésus nous propose, c'est celle qui nous conduit à notre abaissement et à ce chemin de la croix, en quoi ce message des rameaux pourrait-il être réjouissant ? Et d'après vous, où est-ce que dans ce texte, nous allons pouvoir trouver un sujet de joie, dans les 11 versets qu'on va trouver ? Je vous laisse relire rapidement ce passage, je vous laisse essayer de trouver où c'est qu'il y a un message d'espérance dans notre texte. Est-ce que vous trouvez quelque chose qui est porteur d'espérance dans ce texte ? On se remet dans la tête de Jésus, seul sur ce trajet, assis sur un ânon, qui lui comprend la chose, se dit « Tiens, tous ces farfelus qui sont en train de m'aduler, s'ils savaient ce qu'ils vont dire dans une semaine, farfelus c'est nous, hein, des fois on est sur ce chemin. Hein. » Alors, qu'est-ce que tu vois dans le verset 10 ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
Dis-nous sur le règne de David, le prophète qui vient au nom du Seigneur.
Est-ce que, du coup, dans ces... Alors, effectivement, c'est quand même porteur d'espérance, parce que Jésus, lui, comprend bien ce qui est dit. Du coup, dans ces foules, effectivement, par contre, les foules, je pense qu'elles, du coup, sont complètement à côté de la plaque. Du coup, effectivement, ils se trompent de règne. Hein. Mais oui, effectivement, on pourrait voir une espérance ici. Mais je crois qu'il y a une parole d'espérance qui est très discrète, qui, dès le début de notre texte, vient tout d'un coup nous éveiller, vient essayer notre conscience. Et c'est un tout petit mot. La mention de Béthanie. Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé à Béthanie quelques mois auparavant ? La résurrection de Lazare. Et alors que Jésus est en train de cheminer sur ce texte, sur ce passage, tout d'un coup il regarde ce qui s'est passé à Béthanie. Et alors que lui se dirige à la croix, il peut trouver une véritable espérance sur ce petit signe qui s'est passé il y a quelques mois en arrière. Un petit signe qui le rappelle à l'espérance. Et je crois que nous avons nous aussi une espérance chrétienne. Vous savez, lorsqu'à certains moments dans notre chemin, on sait que le Seigneur nous appelle à aller à notre propre croix et nous dit, mais regarde ce qui s'est passé il y a quelques mois, quelques années auparavant. Tu n'es pas sans espoir. Tu n'es pas sans espérance. Et de la même façon que Lazare a été un signe de la mort à la résurrection, eh bien Jésus prend conscience que ce chemin qui le conduit à la croix, ça ne s'arrêtera pas là, mais qu'il y a aussi une ouverture derrière. Ce chemin le conduit à la véritable résurrection. Il y a véritablement une espérance pour Jésus, qui sait effectivement qu'il va sur ce chemin d'abaissement, mais que tout ne s'arrêtera pas là. Cette mention si subtile prend son sens, et bien prend tout son relief. Elle apparaît un petit peu, vous savez, comme les premières lueurs du jour, dans les premières matinées de printemps, qui nous dit, bientôt, il y aura le soleil qui éclairera et qui viendra nous réchauffer une bonne fois pour toutes. Bientôt, l'hiver sera totalement passé. Et alors que tout semble indiquer que les choses vont à leur fin, le souvenir de la résurrection de Lazare doit venir nous inviter à regarder ce qui se passera quelques jours après, lors de la résurrection du Christ. Cette route des rameaux ne vise pas donc uniquement la mort du Christ, mais bien plus, c'est la résurrection, c'est la vie qui sont visées. La vie de Christ et son œuvre n'ont pas pour but la mort. Christ ne nous amène pas et ne nous engage pas dans un chemin de mort. Et s'il nous fait passer par des chemins où nous ne comprenons pas forcément par où nous passons, c'est bien pour nous ouvrir à la vie et à la véritable vie. Et la mention discrète de Béthanie doit nous encourager au fait que tout ne s'arrête pas à la croix. Tout ne s'arrête pas à l'angoisse par laquelle nous sommes appelés à passer pendant quelques heures, pendant quelques jours, pendant quelques mois, mais que très rapidement, nous allons pouvoir revenir à une véritable vie et une véritable vie en abondance. Et si la résurrection de Lazare n'a été là que pour quelques années, la résurrection du Christ que nous pouvons contempler par la résurrection de Lazare, eh bien nous montre que nous entrons dans un véritable chemin de vie, un véritable chemin de vie qui coule en abondance, qui ne s'arrête pas. En ces temps de carême, nous nous plongeons dans un temps tragique, qui est le temps de la Pâque. Nous sommes appelés à nous remémorer, à nous plonger dans ce moment de délaissement, d'inquiétude, d'angoisse. Mais en même temps, nous sommes appelés aussi à regarder que tout ne s'arrête pas à la croix. Avec la résurrection, c'est la victoire sur la mort, la victoire sur le péché et sur ses conséquences. Ce qui veut dire que cette foule attendait un roi, et il l'aura bien. Au final, elle s'est peut-être trompée pendant un temps, mais il y a bien un roi qui vient rentrer dans son règne lors de cette semaine, mais de façon beaucoup plus grande que tout ce qu'elle pouvait penser. En ceci, le message de la Pâque est un message qui vient retourner notre façon de penser. Cette foule qui ne pouvait comprendre les événements qui allaient se produire, lors de la résurrection, tout d'un coup, va pouvoir, en acceptant la mort, pouvoir trouver la résurrection du Christ. Et pouvoir accepter que le Christ est bel et bien rentré dans son règne. Mais pour le comprendre, il nous faut aussi accepter cette œuvre de salut que le Christ est en train d'accomplir. Œuvre de salut que l'on ne peut comprendre tant que nous ne sommes pas prêts à accepter de suivre le Christ nous-mêmes sur ce chemin d'abaissement, de rejet, d'angoisse, d'humiliation. Mais c'est à partir de ce moment-là que nous pourrons accepter et rentrer sur le chemin de la résurrection. Alors, en cette période de Pâques, Jésus va bel et bien rentrer dans son règne. Mais pas du tout de la façon dont avaient envisagé les disciples. Ce n'est pas le royaume d'Israël que Jésus visait, mais c'est l'ouverture du royaume des cieux pour tous, pour nous aussi qui faisons partie des nations. Alors ce texte peut réellement être un véritable jour de joie si nous accueillons dans notre cœur ce Messie doux et humble de cœur, qui ne se présente pas de façon fracassante, de façon dont nous attendons, mais ce Messie qui vient nous surprendre. Ce Messie qui accepte de nous faire passer par la mort pour nous conduire à la véritable vie. Une fois pris en considération ce texte, eh bien je crois que cela doit nous envisager à quelques applications concrètes dans notre vie. La toute première réflexion à laquelle ce texte vient nous interpeller, c'est celle de la compréhension des disciples. Et les disciples, c'est nous. Ceux-ci avaient effectivement entendu parler pendant 3 années des événements qui devaient arriver à Jérusalem. Mais ils n'avaient pas compris. Pourtant, Jésus avait formulé des phrases qui étaient très claires. Il avait dit « Je vais à Jérusalem pour y mourir ». Il avait même, à un moment, clairement annoncé à Pierre, Jacques et Jean qu'il allait mourir et ressusciter. Enfin bref, le discours était très clair. mais ça ne correspondait pas à leur pensée, donc ils n'ont pas voulu l'entendre. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ont déjà fait de la vente, mais je me souviens, par exemple, il y a quelques années en arrière, quand j'étais au rayon peinture, c'était assez intéressant, par exemple, des gens, des clients arrivaient vers moi en disant « Je veux peindre ma maison, par contre, je n'ai pas envie de nettoyer les murs, je n'ai pas envie de mettre de sous-couches, et je veux vous vendre un produit qui fait tout, et que j'ai juste à passer sur le mur, comme ça, et puis que tout marche, comme ça. » Alors, je leur disais « Soit il faut que vous changiez de pensée, soit il faut aller à Lourdes pour que vous ayez un miracle. » Et alors les gens disaient « Ouais, machin. » Alors soit les gens disaient « Ah bon, c'est plus compliqué ?» Ou bien sinon les gens « Ouais, vous n'êtes pas un bon vendeur, vous n'êtes pas vendre le produit que je cherche. » Ce produit n'existe pas. Quand on fait des travaux dans une maison, il faut que les murs soient propres, il faut mettre de la sous-couche, attendre normalement 48 heures, attendre, mettre une couche, attendre 24 heures, et mettre une deuxième couche. Donc en fait, il nous faut une semaine au moins, plus ou moins une semaine, pour avoir une maison qui soit décente. Voilà. Mais c'est exactement de la même façon. En fait, il y a des moments où il faut attendre, où il faut patienter. Il y a des moments qui sont dus, qui sont du labeur, qui sont pénibles, pour pouvoir obtenir ce que nous voulons. Et c'est ce que Jésus avait voulu les amener à comprendre. Déjà, il les avait préparés pendant 3 années. Et en fait, ce qu'il est en train de leur dire, vous allez vivre une semaine d'angoisse. Vous allez vivre un temps où vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Vous allez vivre un temps où il va falloir lâcher votre pensée, accepter de tout reprendre à zéro pour réfléchir à tout ce que vous avez pensé. Est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai dit? Est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai enseigné? Il va falloir mourir à votre propre pensée pour découvrir celui que je suis vraiment. Et cela doit nous interpeller nous-mêmes. Quel évangile voulons-nous? Voulez-vous un évangile de la facilité? Un évangile où on ressuscite sans même mourir? Eh bien, cela n'existe pas. Nous devons nous mourir à nous-mêmes, mourir à notre propre pensée. En ce dimanche, des rameaux que Jésus est en train d'arrêter ses disciples, je crois que nous sommes nous-mêmes appelés à nous interroger si l'évangile que nous voulons, si l'évangile que nous vivons, est aujourd'hui l'évangile du règne qui passe par la croix. Ce texte nous laisse entendre que nous nous trompons nous-mêmes si nous attendons un Messie selon nos attentes. Ce temps de Pâques doit venir nous questionner afin de voir si nous sommes toujours en adéquation avec l'esprit de la croix. Suivons-nous Jésus jusque sur le calvaire ou bien nous refugions-nous dans des pensées qui sont des pensées trompeuses qui s'arrêteront uniquement à la mort. Et alors si nous connaissons et si nous reconnaissons que nous nous sommes trompés nous-mêmes d'espérance, eh bien, ce texte vient nous inviter à ressusciter notre façon de penser pour que nous puissions suivre Jésus nous-mêmes sur ce chemin de la croix. Ce chemin est un chemin d'abnégation de nos propres désirs, de nos propres projections. Celui qui a défriché cette voie, c'est le Christ, et nous invite à le rejoindre dans l'humilité, dans la douceur sur ce chemin d'abaissement. Nous ne pourrons pas régner aux côtés de Christ sans porter avec lui sa couronne d'opprobre. Ainsi, ce texte des drapeaux nous invite à suivre docilement le Christ, comme l'agneau qui va à l'abattoir, à nous laisser amener au lieu où nous ne voudrions pas aller, parce que c'est à partir de ce moment-là que nous pourrons découvrir le Christ à la croix pour parvenir avec lui à la résurrection. Enfin, j'aimerais terminer, peut-être que comme Jésus, effectivement, nous prenons conscience que Jésus nous amène à notre propre croix, et comme lui, peut-être que nous sentons terriblement seuls. Et je crois que lorsque le Seigneur nous conduit à ces moments de la croix, il n'y a personne qui peut venir nous accompagner, hormis le Christ lui-même, bien sûr. Mais il y a des moments où il y a des moments d'angoisse, où personne ne peut comprendre ce que nous sommes capables de vivre. Des moments de deuil, de souffrance, lorsque nous avons placé dans la prière une espérance qui ne se réalise pas comme nous le voulons. Et bien la résurrection, et bien pardon, de la même façon que le Christ contemple ce village de Béthanie, et qu'il se dit très bientôt, il y aura une espérance. Le Seigneur nous invite à contempler à notre propre Béthanie. Vous savez, lorsque nous avons eu des moments dans notre vie où le Seigneur est venu nous rejoindre et nous a ramenés à la vie, il y a des moments où nous ne le pensions pas, nous ne l'espérions pas. Ces moments de conversion ou de reconversion, il nous dit, regarde ce que j'ai fait à ces moments-là, contemple-le, parce que de la même façon, je te ramènerai à la vie. Passe par ce moment de la croix, passe par ce moment de solitude et d'angoisse, parce que c'est là que tu vas pouvoir vraiment me découvrir et venir à la résurrection avec moi pour vivre de façon beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde à mes côtés. Notre espérance se trouve non pas dans nos prétentions ou dans nos ambitions humaines, mais uniquement dans la mort et dans la résurrection du Christ. dans cette mort et dans la résurrection par laquelle nous sommes appelés, nous aussi, à rejoindre le Christ et à passer. J'arrêterai de lever ma prière. Seigneur, effectivement, bien souvent, on a eu au cours de notre cheminement, au cours de notre vie, ce cheminement qui est celui des disciples et par lequel aussi nous repasserons, je crois encore, hélas, bien souvent, ces moments où on est convaincu de t'apporter la plus belle louange, les plus belles paroles, parce qu'on approche de quelque chose, et puis on s'édifie sur ce que l'on a nous-mêmes construit, en oubliant de nous édifier sur toi. Et Seigneur, on te remercie pour cette parole qui vient nous reprendre, et puis nous dire que, de la même façon que ces disciples l'ont fait, nous aussi, on est voués aussi à à se découvrir nous-mêmes comme faibles, comme nous trompons nous-mêmes. Mais Seigneur, en même temps, tu nous montres que, en fait, ça n'empêche pas ton plan, que tu vas rentrer dans ton règne, et que de la même façon qu'il y aura cette désillusion pour ses disciples par cette forme de mort à soi-même, que nous sommes appelés nous aussi à mourir à nous-mêmes. Et puis qu'à partir de ce moment-là, tout d'un coup, on va se dire, ah oui, je m'étais réellement trompé, mais pourtant tu es réellement rentré dans ton règne, et tu es réellement digne de recevoir ces louanges. Ces louanges qui disent Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, béni soit le royaume qui vient et qui est là, par ta mort et par ta résurrection, le royaume de David. Hosanna, adieu, au plus haut des cieux, parce que tu es mort, tu es ressuscité, et de la même façon, Seigneur, dans nos incompréhensions, nous savons, Seigneur, que tu vas nous amener à la désillusion, mais aussi à la véritable vie que nous trouverons en toi. Et Seigneur, on te remercie pour cette vie débordante. Parce que Seigneur, notre désir en venant ici, c'est de connaître plus de toi, de pouvoir te ressembler dans ta résurrection. Et on sait, Seigneur, que tu le feras en acceptant à la mort à nous-mêmes. Et Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour cette vie en abondance lorsque nous acceptons tout cela.